Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 18h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Ouverture cet après-midi à Bujumbura du 20e sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Au menu, l'escalade de tensions entre la RDC et le Rwanda. Ces travaux à huis clos seront sanctionnés ce week-end par un communiqué final. L'identification et l'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle se déroule effectivement en Afrique du Sud. C'est l'un des cinq pays qui ont été choisis par la CENI pour enrôler les Congolais de la diaspora, nous dira Grâce Mzati, notre envoyé spécial à Pretoria. Notre invité, c'est le secrétaire exécutif intérimaire de la CENI dans le Tanganyika, Saïdi Bilali, évalue l'identification des électeurs une semaine après le lancement de cette opération dans la province. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir au micro. Pascal Masserica, Pierre Diassinois et sur les manettes. Ouverture cet après-midi au palais de Ntare Rushashi à Bujumbura du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Six chefs d'État prennent part aux assises dirigées par le président en exercice de l'EAC, Evariste Ndayishimiye, Félix Tshisekedi de la RDC, William Ruto du Kenya, Yoweri Museveni Kaguta de l'Ouganda, Madame Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie et Paul Kagame du Rwanda participent aux assises qui se tiennent à huis clos. Le président du Soudan du Sud est représenté par son ministre chargé des affaires de la communauté Jumuiya East Africa. Au menu, l'escalade de tensions entre la RDC et le Rwanda. Ces travaux seront sanctionnés ce week-end par un communiqué final. Compte tenu des avancées enregistrées sur le terrain par les rebelles du M23 soutenu par les Rwandais, la force de l'EAC, dans son format actuel, n'a pas sa raison d'être en RDC en remplacement de la MONUSCO. Et l'adhésion de la RDC à l'EAC présente plus de désavantages que d'avantages. Déclaration faite hier vendredi à Kinshasa par le coordonnateur de Congo Action pour une diplomatie agissante. Dans sa réflexion, cette structure qui réunit en son sein des Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique estime que ce soit sous le plan économique ou sécuritaire, la RDC ne gagne rien dans l'EAC qui est composée principalement des pays agresseurs. Eric Kamba propose plutôt le retrait pur et simple du pays de cette organisation régionale qui a abusé de la bonne foi du président Félix Tshisekedi. On l'écoute.
Au vu des déclarations du président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, du 28 novembre 2022, déclaration à travers lesquelles il félicite l'ONU pour les missions effectuées par la MONUSCO, il demande que cette dernière se retire au profit de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Paradoxalement, il demande à l'ONU de financer les déploiements de cette force d'interposition qui a des missions plus restreintes que la MONUSCO et qui est composée de certains pays qui arment en sous-main le mouvement terroriste, le M23. Sur le terrain, la situation est telle que le M23 continue à poursuivre leur conquête malgré toutes les sommations faites par la force régionale, les appelant à se retirer des positions occupées actuellement. Par contre, l'avancée de M23 consacre l'élargissement de la zone dite tampon sous le regard de la force de la communauté d'État d'Afrique de l'Est. En conclusion, la force de la communauté d'Afrique de l'Est, dans son format actuel, son mandat actuel, n'a pas de raison d'être en République démocratique du Congo en remplacement de la MONUSCO.
Partons maintenant pour le Nord Kivu où au lendemain de la chute de la localité de Kirolirue située à environ 50 km au sud-est de la ville de Goma dans l'égroupement de Bachali Kaimbwe, une panique s'observe dans plusieurs agglomérations du territoire de Masisi. Conséquence, un déplacement massif des habitants. Les sources concordantes confirmées par un acteur de la société civile précisent que ces habitants fuient l'avancée des rebelles du M23 et redoutent en même temps surtout les actes de représailles. Cette situation aggrave la situation humanitaire déjà précaire dans les zones d'accueil de ces déplacés. Telesfor Mitondeke s'est confié à Gabriel Ouamenia.
les mouvements sont vraiment de tous les sens et de toutes directions. C'est parce qu'il y a des populations qui se déplacent. Les mêmes les endroits qui accueillent les déplacés, il y en a aussi certains habitants locaux qui se déplacent pour d'autres directions. Donc voilà un peu comment se présente la situation actuellement en territoire de Fatigue. Les axes principaux sont l'axe Mueso Pinga, l'axe Nyabiondo, Mukombo, Massif du Centre jusqu'à Sake, sans citer les autres mouvements de déplacés qui sont dans la localité de Mukombo, en groupement Bachali Kaembe, principalement à Karanga et dans les autres agglomérations environnantes là-bas. Donc voilà un peu les axes en tout cas majeurs qui constituent les épicentres ayant accueilli les milliers de familles déplacées. Gourma aussi qui ne cesse d'accueillir d'ailleurs des déplacés venant du territoire de Masisi.
Nord Kivu encore, la situation reste imprévisible sur toutes les lignes de front dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et de Masisi. Ce malgré un calme précaire deux jours après la prise de la localité de Kirulirwe par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. La société civile locale parle des mouvements massifs des habitants dans tous les axes principaux du territoire. Explication de Noël Alouzi Tukabambi.
Une accalmie s'observe depuis hier vendredi dans le secteur de Kirulirwe, situé à environ une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Goma, où le M23 a installé sa position avancée sur cet axe stratégique qui mène directement à Goma via Sake dans le groupement de Kamuronza. Sur le même front sud-est, un peu plus loin de Kirulirwe, à Kingi exactement, pris de panique, les populations qui y restaient encore ont vidé le village et sont arrivées ce samedi matin à Sake, craignant d'être prises en sandwich entre deux positions des rebelles, confirment les sources de la société civile de Masisi. Sur le front nord, rien ne bouge dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles maintiennent toujours leur position tout autour du pont Mabenga sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga. Cependant, sur le front est, dans la chefferie de Bwisha, dans le même territoire, des tirs ont été entendus dans la nuit de vendredi à ce dimanche matin dans le village de Shinda, situé entre les groupements de Busanza et Jomba. Nos sources dans la zone confirment sans beaucoup de précision que des actes de pillage des récoltes ont été enregistrés cette nuit dans cette zone. La situation reste relativement calme dans le groupement de Kibumba, situé à environ 30 km au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, où est actuellement déployée la force régionale de l'EAC.
Merci Noël Aluzitu Kabambi pour ces précisions. Et puis, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné les attaques menées au nord Kivu par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise, ce qui aggrave la sécurité, la stabilité de la région et exacerbe en même temps la situation humanitaire. Dans une dépêche parvenue hier à Radio Kapi, les membres du dit Conseil de sécurité des Nations Unies se déclare préoccupé par les informations faisant état d'un incident impliquant l'armée rwandaise sur un avion des FARDC le 24 janvier dernier dans la zone frontalière entre la RDC et le Rwanda. Le point avec vous, Paul Matendo.
Selon cette dépêche, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur demande de cessation immédiate des hostilités et de toute nouvelle avancée du M23 et de son retrait de toutes les zones occupées comme convenu dans le cadre du processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. Ils ont souligné les engagements pris par la région dans le cadre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de ne pas tolérer ni fournir d'assistance ou de soutien de quelque nature que ce soit aux groupes armés. La même source ajoute que les membres du Conseil de sécurité ont également condamné les récentes attaques des ADF et de la CODECO contre des civils à Ituri et au Nord Kivu. Ils ont appelé tous les acteurs à respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, et à faire en sorte que les auteurs des violations rendent des comptes. Ils ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils ont réitéré leur plein soutien à la représentante spéciale du secrétaire général Bintou Keïta et aux actions stabilisatrices de la MONUSCO.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ce samedi de manifestations de protestation des habitants de la ville de Goma au Nord Kivu contre l'avancée des rebelles du M23 et l'armée rwandaise vers Kichanga, vers Kirulirwe. dans les territoires de Masisi. Avancée des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise de Akichanga vers Kirolirwe dans les territoires de Masisi. Les manifestants s'insurgent également contre les velléités de balkanisation de la RDC. Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées aujourd'hui, y compris les cours dans les écoles de la ville. À Goma, le récit de Bernard Dindiambou.
Depuis hier vendredi à ce samedi, des barricades ont été érigées sur plusieurs axes dans les quartiers au nord de la ville de Goma. C'est notamment dans les quartiers Majengo et Katoy. Des activités scolaires sont aussi perturbées dans plusieurs écoles de la place durant ces deux jours. Les élèves sont chassés de leur salle de classe par des coups de pierre lancés par des manifestants. Les manifestants disent répondre au mot d'ordre de la société civile, des mouvements citoyens et de la jeunesse, les appelant à la mobilisation et à la résistance. C'est ce que nous explique ici le président de la société civile urbaine de la ville de Goma, Marion Ngavo.
Nous n'accepterons jamais que notre ville de Goma soit prise et détenue et gérée par les groupes armés sous le label du Rwanda. Nous avons appelé à la mobilisation, à la résistance. La population en a marre, coupée des routes du Grand Nord qui dépend plus de la nourriture et beaucoup plus des échanges commerciaux entre le Grand Nord et Goma. Nous pensons que c'est une manière de tuer la population. Nous demandons donc à toute la population d'être sereine, de ne pas céder aux manipulations, de ne pas fuir la ville de Goma, de rester soudée et surtout aux manifestants, de ne pas casser de routes, de ne pas casser de bâtiments, mais de manifester pacifiquement, sans casse, et laisser les élèves aller au cours.
Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ces temps, 28 rebelles ougandais de l'EDF ont été neutralisés, d'autres capturés et plus de 80 otages libérés pendant les opérations menées par les FARDC depuis le mois de décembre dernier dans les territoires du Rumu sur l'axe Komanda-Luna. Ce bilan a été dressé à la presse ce samedi à Bunia par le porte-parole des FARDC dans la province. Pour sa part, la société civile de la région fait remarquer que ces rebelles ougandais de l'EDF ont intensifié les attaques contre les civils depuis une semaine. Cette structure citoyenne demande au FARDC de démanteler au plus vite ces rebelles. À Bunia, la correspondance d'Isaac Remoyope.
Selon les porte-parole de l'armée en Ituri, une accalmie s'observe depuis décembre 2022 dans tous les villages situés le long de la RN4 sur l'axe Komanda-Luna dans les territoires des Rumu, ce qui a permis à de nombreux habitants qui avaient fui les exactions des ADF de regagner leur village et d'exercer librement leurs activités économiques et agricoles. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que des véhicules de transport en commun circulent même sans escorte. C'est le résultat des opérations militaires lancées depuis décembre dans la zone, au cours desquelles 28 rebelles ont été tués, 18 autres capturés et 83 personnes prises en otage par des ADF libérés par l'armée. Lieutenant Gilles Ngongo.
Une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village. Pour nous, le fait final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement leurs occupations.
La société civile du territoire d'Irumu déplore un certain relâchement de l'armée dans les opérations de traque de ces rebelles qui ont multiplié les attaques contre les civils depuis une semaine dans cette région. Son président Guili Gota Tabo demande au FARDC de poursuivre les combats jusque dans la profondeur de la forêt pour démanteler ces groupes armés.
La FARDC ne peut pas étendre les affrontements au fond de la forêt, raison pour laquelle il y a encore des mobiles, des adhérents dans des milliers.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle se déroule effectivement en Afrique du Sud. C'est l'un des 5 pays choisis par la CENI pour enrôler les Congolais de la diaspora. Pour en parler, retrouvons Grâce à Mzati, notre envoyé spécial à Pretoria.
L'unique centre d'enrôlement des Congolais vivant en Afrique du Sud est installé à l'ambassade de la RDC, située sur l'avenue Francis Barthes au centre-ville de Pretoria. Ce samedi, nous y avons trouvé l'équipe de la CENI conduite par le conseiller principal du rapporteur, le professeur Ferdinand Kapanga Mutombo, ainsi que quelques requérants de la carte d'électeur qui nous ont affirmé d'être venus des différentes villes, notamment Johannesburg, Cape Town et Durban. 4 machines d'enrôlement, dont 2 qui sont opérationnelles et 2 autres de réserve, y ont été déployées. À l'entrée de l'ambassade, une banderole indiquant tous les critères d'éligibilité à l'enrôlement est mise en place à l'intention des Congolais. Selon le professeur Ferdinand Kapanga, depuis le 25 janvier jusqu'à 6 jours, cette opération se déroule normalement. Il dit avoir rencontré les représentants des différentes couches de la population congolaise vivant en Afrique du Sud pour les sensibiliser sur cette opération. De leur côté, les électeurs que nous avons interrogés se sont dit satisfaits d'avoir rempli ses devoirs civiques. Jusque-là, cette opération se déroule en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud que nous avons trouvé également sur place. De Pretoria, grâce Amzati Masanzi, Radio Kapi.
Retournons au pays par le Maniema pour parler de la reprise des travaux de réhabilitation de route, des travaux qui avaient été arrêtés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kindu notamment. Le directeur provincial de l'office de route Maniema plaide pour le remplacement pur et simple du matériel acquis depuis 2012. Théophile Mangui Dikiese au micro de Florence Kizalunga.
Nous étions en saison de pluie et à partir du 15 décembre, nous avons suspendu les travaux momentanément avec l'ordre du gouverneur de province. Et maintenant, c'est la saison sèche. C'est une bonne saison pour nous, pour travailler. Et nous avons fixé la date du 5, la reprise effective des travaux. Mais au moment où je vous parle, sur la route de Kasson, nous avons déjà démarré des poussières. Et au niveau de projet construction de pont Molowe à la frontière Maniema-Lomami, là, dans une semaine, on termine l'approvisionnement et on commence les travaux du pont. Pour la route Wamaza-Salamabila-Penemende, là, les matériels sont restés sur place. Aux autorités qui nous suivent, nous avons un problème par rapport à nos engins. Nos engins datent de 2012. Pour le moment, ces engins ne nous donnent pas un bon rendement. Nous leur demandons de nous approvisionner avec des nouveaux matériels pour avoir un rendement escompté. Il y a un tronçon Kasson ou Amaza. Jusque-là, l'argent est logé à la banque. Il n'y a même pas de matériel pour ces projets-là.
Actualité internationale.
À ses 100 versets, le pape François a appelé ce samedi les dirigeants du Soudan du Sud à un nouveau sursaut pour la paix au deuxième jour de sa visite dans ce pays déchiré par les luttes de pouvoir et l'extrême pauvreté. Les générations futures honoreront et effaceront au plus vite la mémoire de vos noms en fonction de ce que vous faites maintenant, a-t-il déclaré aux autorités et au corps diplomatique à Djouba. Le Portugal est disposé à envoyer au plus vite des chars lourds Léopard 2 à l'Ukraine, mais doit d'abord travailler avec l'Allemagne pour émettre une partie de ses blindés en état de fonctionnement, a annoncé ce samedi le Premier ministre Antonio Costa. Cette opération logistique est en cours et nous travaillons en étroite collaboration de façon très proche avec l'Allemagne. En temps voulu, nous serons en mesure d'apporter notre contribution à cet effort collectif visant à doter l'Ukraine des meilleurs moyens de défense face à la Russie.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire exécutif intérimaire de la CENI dans le Tanganyika. Saïdi Bilali évalue l'identification et l'enrôlement des électeurs une semaine après le lancement de cette opération dans la province. Il s'entretient avec Paul Emunanga.
Monsieur Saïdi Bilali, bonjour.
Bonjour, merci.
Une semaine après le lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, quelle évaluation faites-vous?
Je peux dire que jusque-là, tout va bien. Nous avons pris un bon rythme. Nous avons eu à lancer avec certains centres d'inscription dans les chefs-lieux de la province ici. Et progressivement, nous avons ouvert dans d'autres territoires de la province. Actuellement, je peux rassurer l'opinion public que dans les Tanganyika, dans tous les territoires, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs a été lancée. Dans son ensemble, tout va bien. Il y a des petits problèmes d'ordre technique, mais nous sommes en train de surmonter ça et nous espérons que d'ici les 30 jours à partir du lancement, nous aurons enrôlé le maximum d'électeurs selon les prévisions faites par la CENI.
Quelles sont les prévisions pour la province du Tanganyika?
Pour l'ensemble de la province du Tanganyika, nous attendons avons enrôlé donc environ 1 442 025 électeurs.
Et on a déjà enrôlé combien de personnes?
Je ne sais pas donner ici les statistiques exactes parce que nous avons une chaîne de supervision. Il y a une bouche autorisée à pouvoir publier les statistiques de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Ce que nous pouvons retenir est que nous sommes en train d'évoluer à un bon rythme et nous espérons atteindre les 100% des assignations faites par la CENI.
Et vous venez ici de parler des petits problèmes techniques souvent lors des opérations depuis une semaine. Quels sont ces problèmes?
Bon, il n'y a pas de problème majeur. Ce sont des petits problèmes d'ordre technique, soit des bourrages d'imprimantes, soit des petites pannes qui sont vite prises en charge par les techniciens qui sont avec nous ici.
J'ai constaté aussi une certaine lenteur dans certains centres d'enrôlement. Après vérification, on m'apprendra qu'il y a certains opérateurs de saisie qui ne parviennent pas à manipuler la machine pour y aller très vite. Est-ce que vous avez fait aussi ces constats?
Personnellement, je n'ai pas fait ces constats. C'est qu'on devons savoir que nous avons eu à recruter les agents et qui ont été bien formés et qui sont capables à nous rendre un service selon notre attente. Mais s'il y en a ceux qui ont une certaine lenteur, nous sommes là derrière pour les encourager, les bousculer, qu'ils soient les plus rapides possibles. Et ce que l'ensemble de la population doit savoir, quand on se lance dans une opération, le début a toujours eu un rythme. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, le rythme là s'accélère. Et au stade actuel, je vous assure que tout va bien et le nombre d'électeurs qui se faisaient enrôler journalièrement, donc le 25, le 26, n'est plus le même. Aujourd'hui, nous allons vers les 300 électeurs par centre d'inscription. C'est que là, nous avons pris un bon rythme dans l'espoir d'avoir atteint facilement les assignations arrêtées par la CENI.
Combien de centres compte la province du Tanganyika?
La province du Tanganyika compte 641 centres d'inscription. Et ici, à Kalemi, dans la ville, nous avons 25 centres d'inscription et dans les territoires de Kalemi, nous avons 82 centres d'inscription.
Certains requérants dénoncent le fait qu'il y a les policiers qui sont censés établir l'ordre dans ces centres et sont accusés de se faire corrompre par certaines personnes qui veulent entrer rapidement pour avoir la carte d'électeur.
Personnellement, je ne suis pas au courant. Bon, en fait, j'apprends des rumeurs ici et là qu'il y a des agents commis à la sécurisation des centres d'inscription qui sont accusés de la vente des jetons. À mon niveau, ce que je suis en train de faire et ce que je demande aux superviseurs qui sont déployés sur terrain de décourager de tels actes, c'est une occasion pour moi de faire appel à la responsabilité de tout un chacun de nous. Parce que quand il y a de telles accusations, c'est qu'il y a quelqu'un qui a proposé l'argent et il y a l'autre qui en a reçu. Donc, ce que nous devons noter est que l'enrôlement est gratuit. Donc, il n'est pas demandé à quiconque de débourser l'argent pour se faire enrôler. Donc, il faut être patient. Quand vous arrivez au niveau du centre d'inscription, attendez qu'on vous remette les jetons et qu'on vous appelle selon votre ordre d'arrivée.
Monsieur Saïdi Bilali, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, aujourd'hui le secrétaire exécutif intérimaire de la CENI dans le Tanganyika. Saïdi Bilali était interviewé à Kalemi par Pone Munanga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Aluzitu Kabambi qui m'a accompagné.